Chapitre 9 : Les jours de Noé, et les derniers jours. La dernière génération. Le Seigneur continue en établissant comme suit une comparaison entre les jours de Noé et notre temps. Car comme dans les jours avant le déluge les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne pensèrent au déluge que lorsqu'il vint, et qu'il les emporta tous, il en sera aussi de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous avons ici une description de la condition présente des masses. Quel trait tristement caractéristique. Les hommes de la dernière génération seront comme ceux qui vivaient avant le déluge, lorsque l'arche se construisait. Noé prêcha, et avertit ses contemporains que le déluge allait venir. Ils le raillèrent et firent de lui le point de mire de leur sarcasme. Noé était un prédicateur de la justice. Ses œuvres étaient de nature à donner du poids à ce qu'il prêchait, et à faire pénétrer ses paroles dans les cœurs. Chaque sermon prêché, chaque coup de marteau donné en construisant l'arche, condamnait un monde insouciant et moqueur. Comme le temps s'approchait, le monde venait plus frivole, plus endurci, plus hardi et plus impudent, et sa condamnation plus certaine. Noé et sa famille étaient seuls. Une seule famille pourrait-elle bien en savoir plus long que tout le reste du monde? L'arche est un sujet doux risé, et Noé passe pour un fanatique obstiné. Mais l'Éternel commande à Noé d'entrer dans l'arche. Les animaux y sont conduits par la main de la Providence. Et l'Éternel y enferme Noé. Cela effraie d'abord la multitude railleuse, mais bientôt les plus sages l'expliquent de manière à calmer toutes les craintes, et de nouveau l'on respire à l'aise. Le jour décisif arrive finalement. Le soleil se lève comme d'habitude. Le ciel est sans nuages. Où est le déluge du vieux Noé? Entend-on crier mille voix impies. Le fermier prend soin de ses troupeaux et de sa ferme, et l'artisan poursuit ses travaux. Il en est qui, ce même jour, entre dans l'aimant du mariage. Pour un grand nombre, c'est un jour de fête et d'amusement inaccoutumé. Mais, tandis que tous s'attendent à de longues années de prospérité et de plaisir, les cieux s'assombrissent soudain. L'effroi remplit tous les cœurs. Les fenêtres des cieux s'ouvrent, et la pluie descend par torrents. Les fontaines du grand abîme sont rompues, et les bondes des cieux sont ouvertes, tandis qu'ici et là des rivières jaillissent de la terre. Les vallées sont bientôt remplies par les eaux, et des milliers de personnes sont déjà victimes du fléau. Quelques-uns se réfugient sur les points les plus élevés du pays, mais l'eau les suit rapidement. Des hommes emportent leurs femmes et leurs enfants. Mais ils sont obligés de les abandonner et de monter sur les arbres les plus élevés. Bientôt les arbres eux-mêmes sont recouverts par les eaux, en sorte que la colombe envoyée par Noé ne trouva pas un lieu sec où poser le pied. Toute l'humanité est plongée dans le silence de la mort. Mort affreuse. Rendue plus horrible par le fait qu'elle est la conséquence d'un mépris de la grâce. Mais où est Noé? Ah! Il est sauf dans l'arche, il est porté sur les eaux, sauvé du déluge. Les preuves de la seconde venue de Christ sont considérées par la plupart des hommes comme insuffisantes pour servir de base à une foi ferme et sûre. Et cependant le témoignage et les actions d'un seul homme condamnèrent l'humanité détruite autrefois par le déluge. Les preuves étaient alors suffisantes, car autrement le monde n'eût pas été condamné. Or des preuves 100 fois plus convaincantes nous démontrent que le jour du Seigneur est proche, et qu'il se hâte fort. Si nous suivons les nombreuses chaînes prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse, nous nous trouvons, à chaque fois portés dans la présence immédiate du jour de la colère. Nous y voyons que les signes dont parlent les prophètes, Jésus-Christ et les apôtres, où est-ce, accomplissent ou sont accomplis. Il y a plus, au temps voulu, et de la manière annoncée par certaines prophéties, on voit un message solennel se proclamer dans différentes parties du monde, sonner de la trompette en Sion, et sonner avec un retentissement bruyant dans la montagne de ma sainteté. Que tous les habitants du pays tremblent. Car la journée de l'Éternel vient, car elle approche. Où que nous regardions, nous voyons des prophéties qui s'accomplissent. Tandis que la connaissance de Dieu et l'esprit de sainteté diminuent, l'impiété inonde la surface de la terre comme un déluge. Toutes ces preuves sont considérées comme insuffisantes pour servir de fondement à la foi. Quel genre de preuves les incrédules veulent-ils donc? Lorsque les signes de la fin, diront les sceptiques, s'accompliront, ils seront si évidents que personne n'en pourra douter. Mais si les signes sont tels, et doivent s'accomplir de manière à contraindre tous les hommes de croire à la venue de Christ, comment se peut-il qu'il en soit alors comme au jour de Noé? Les hommes n'étaient pas alors forcés de croire. 8 âmes croyantes furent seules sauvées, tandis que tout le reste du monde fut englouti dans son incrédulité, sous les eaux du déluge. Dieu n'a jamais révélé sa vérité à l'homme de manière à le forcer de croire. Ceux qui ont voulu douter de sa parole en ont toujours amplement trouvé l'occasion, et une voie large pour les conduire à la perdition. Tandis que ceux qui ont eu le désir de croire ont toujours trouvé le rocher éternel sur lequel ils ont établi leur foi. Immédiatement avant la fin, le monde se trouvera endurci dans le péché, et indifférent envers les droits de Dieu. Les hommes négligeront de prêter l'oreille aux avertissements leur signalant le danger, et seront aveuglés par les soucis des choses de cette vie, par les plaisirs et les richesses. Une génération incrédule et impie mangera, boira, se mariera, bâtira, plantera et sèmera. Il n'y a pas de mal à manger et à boire, en vue de l'entretien du corps. Le péché est dans les excès et la gloutonnerie. L'institution du mariage est sainte. Mais en entrant dans ces liens, on pense rarement à la gloire de Dieu. Il n'y a pas de mal à bâtir, à planter et à semer, lorsque, on le fait pour avoir des abris convenables, de la nourriture et des vêtements. Mais l'attention du monde est entièrement portée sur ces choses, en sorte que les hommes ne peuvent disposer d'aucun moment pour penser à Dieu, au ciel, à la venue de Christ et au jugement. Ce monde est leur Dieu. Toute l'énergie de leur corps et de leur esprit est courbée à son service, et l'on renvoie à longtemps le mauvais jour. Quant à la sentinelle fidèle qui sonne l'alarme en voyant la destruction s'approcher, on la signale au monde en la qualifiant de pessimiste, de fanatique, d'hérétique. Tandis qu'en contraste on fait entrevoir une longue période de paix et de prospérité pour l'Église et le monde. Les églises sont ainsi tranquillisées et peuvent dormir. Les railleurs continuent leur raillerie, et les moqueurs leur sarcasme. Mais leur jour vient. Voici comment s'exprime un prophète de Dieu. Hurlez, car la journée de l'Éternel est près, elle viendra comme un dégât fait par le Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains deviendront lâches, et tout cœur d'homme se fondra. Jour effroyable. Il se hâte fort. Quelle description le prophète en donne. Comment concevoir les terreurs de cette journée? La grande journée de l'Éternel approche, elle approche, et elle se hâte fort, le cri de la journée de l'Éternel est amer, c'est là que les hommes forts crieront. Cette journée-là est une journée de fureur, une journée de détresse et d'angoisse, une journée d'un bruit éclatant et effrayant, une journée de ténèbres et d'obscurité, une journée de nuée et de brouillard, une journée de corps et d'alarme contre les villes munies, et contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière. Et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne les pourront délivrer dans la journée de la colère de l'Éternel. Et tout ce pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se hâtera de consumer tous les habitants de ce pays. Nous entendons maintenant le cri de paix et de sûreté répété depuis le haut de la chair jusqu'à l'estaminet. Où est la promesse de son avènement? Telle est la question que formulent des milliers de moqueurs des derniers jours. Mais la scène changera soudain. Car quand ils diront « paix et sûreté », alors une ruine subite les surprendra. L'ironie des moqueurs hautains sera bientôt changée en lamentation et en hurlement. Les yeux hautains des hommes seront abaissés, et les hommes qui s'élèveront seront humiliés. Et l'Éternel sera seul élevé en ce jour-là. Car il y a un jour assigné par l'Éternel des armées contre tous les orgueilleux et les hautains, contre tout homme qui s'élève, et il sera abaissé. Et en ce jour-là ceux que l'Éternel aura tués seront étendus depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre bout. Ils ne seront point pleurés, et ils ne seront point recueillis ni ensevelis, mais ils seront comme du fumier sur le dessus de la terre. Ce sera un jour de deuil et de lamentation, et de famine de la parole de Dieu. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en complainte. Sur tous les reins je mettrai le vêtement d'affliction, et je rendrai toute tête chauve. Et je ferai que ce sera comme un deuil de fils unique, et la fin en sera comme un jour d'amertume. Voici des jours qui viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine sur la terre, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais bien d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors, errant d'une mer à l'autre et du nord au levant, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront point. On peut entendre maintenant la parole de l'Éternel. Mais les pécheurs dans l'Église et en dehors de l'Église, sauf quelques exceptions, ne l'apprécient pas. Alors, on ne pourra plus l'entendre. Car les sentinelles qui avaient été placées pour sonner l'alarme, seront descendues de leur poste élevé. La parole de l'Éternel est maintenant annoncée aux pécheurs, et elle lui est offerte sans argent, et sans prix. Hélas! Il la traite avec négligence, ou peut-être encore avec insolence. Mais il ira lui-même alors à sa recherche. Alors, errandés, une mer à l'autre et du nord au levant, ils ne pourront pas l'entendre. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront point. Ils iront de ville en ville, de province en province, de contrée en contrée, pour trouver un homme qui ait la mission d'en haut de leur adresser la parole de l'Éternel. Mais cet homme ne se trouvera point. Tous auront terminé leur haute mission, la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Où peut-on, entendre? Tel est le cri qui retentira de toutes parts. Ce rauque gémissement qui s'élèvera partout, la parole de l'Éternel. Montera jusqu'au ciel, mais les cieux seront d'airain. Alors le monde se tournera contre les faux pasteurs qui l'auront trompé par le cri de paix et sûreté. Et ils les mettront en pièces. Les enfants reprocheront à leurs parents de les avoir empêchés de marcher dans la vérité, et les parents adresseront le même reproche à leurs enfants. L'avare aime maintenant son argent, et il le tient d'une main de fer. Mais en ce jour, il sera dit. Vous, riches, je viens maintenant à vous, pleurez et jetez des cris à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries, et les vers ont mangé vos habits. Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. On peut maintenant employer l'or et l'argent que l'on possède, à la gloire de Dieu, pour l'avancement de sa cause. Mais en ce jour-là, ils jetteront leur argent par les rues, et leur or sera comme une chose souillée. Ni leur argent ni leur or ne les pourront délivrer au jour de la grande colère de l'Éternel. Les ministres de la vérité ont maintenant un message pour le monde, et ils annoncent avec joie les paroles de vie. Ils travaillent joyeusement, ils souffrent, ils prêchent de toute leur énergie à des cœurs souvent durs comme de l'acier, espérant en atteindre quelqu'un, qui soit susceptible d'être amené à la vérité et d'être sauvé. Mais ils n'auront alors aucun message. Leurs prières et leurs cris montent maintenant au ciel en faveur des pécheurs. Ils n'auront plus alors de prières à faire en leur faveur. L'Église dit maintenant aux pécheurs. Viens, et Jésus est prêt à plaider les mérites de son sang en sa faveur afin qu'il puisse être lavé de ses péchés et vivre. Mais alors, l'heure du salut sera passée, et le pécheur sera laissé dans les ténèbres et dans un morne désespoir. Les dernières plaies, par lesquelles la colère de Dieu se manifestera pure. Et qui sont maintenant réservées dans le ciel, dans les fioles de son courroux, en attendant que la miséricorde de Dieu ait fini son œuvre, seront alors versées sur les hommes. Oh! La colère de Jéhovah sans mélange de grâce. Sans une seule goutte de miséricorde. Pas une seule. Jésus quitte son office de sacrificateur, abandonne le trône de la miséricorde pour ne plus offrir son sang qui purifie le pécheur de ses péchés, et il revêt les vêtements de la vengeance. Les anges essuient la dernière larme versée sur le pécheur rebelle, tandis qu'on entend à travers tous les cieux retentir ce terrible mandat. Versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Quant aux humbles fidèles qu'on a vus proclamant sur la terre le message de Dieu dans le deuil, les prières et les pleurs, faisant usage de tous les moyens à leur disposition pour faire retentir de tous côtés le dernier cri d'avertissement, de peur que le sang des âmes ne se trouve sur leurs vêtements, ils sont maintenant enveloppés dans un silence solennel. Le Saint-Esprit a écrit en eux ces paroles prophétiques de leur Seigneur qu'ils espèrent voir venir bientôt. Que celui qui agit injustement, agisse injustement encore, et que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste soit justifié encore, et que celui qui est saint, soit encore sanctifié. Et voici, je viens promptement. La doctrine de la seconde apparition de Christ a toujours été enseignée par l'Église depuis que le Seigneur est monté vers son Père pour y préparer des demeures pour la recevoir. C'est l'événement qui consomme ses espérances, qui termine la période de travail et de douleur, et qui introduit le repos éternel. Quelles scènes sublimes s'ouvriront alors devant les enfants de Dieu qui ont été si longtemps dans l'attente. Les cieux, éclatant de lumière, révéleront le Fils de Dieu dans sa gloire, entouré de tous les saints anges. La trompette sonnera, les justes sortiront immortels de leur tombeau, et tous, rédempteurs et rachetés, accompagnés des armées célestes, monteront dans les demeures préparées pour eux dans la maison du Père. Pour ceux qui aiment véritablement leur Seigneur absent, le thème de son retour prochain pour donner elle, immortalité aux justes morts et aux vivants, est là la source d'une indicible félicité. Cet événement, avec tous ses résultats grandioses, a toujours été l'espérance de l'Église. Paul pouvait regarder par-delà 18 longs siècles, et l'appeler la bienheureuse espérance, et l'apparition de la gloire du grand Dieu, et notre Sauveur Jésus-Christ. Et saint Pierre exhorte les fidèles à la piété par ses paroles, en attendant, et en vous hâtant pour la venue du jour de Dieu. Finalement, saint Paul, après avoir parlé du Seigneur venant du ciel, de la résurrection de ceux qui sont morts en Christ et de leur ascension avec les justes vivants pour rencontrer le Seigneur dans l'air, dit au peuple de Dieu, « C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. »